Bonsoir, bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission « Et si on s'écoutait ?». Nous sommes le mardi 2 janvier 2024 et nous serons ensemble de 21h à 22h en direct. L'émission sera diffusée jeudi de 9h à 10h et le podcast, lui, sera disponible sur le site de Radio Galère dans quelques jours. Dans cette émission « Et si on s'écoutait ?», nous recevons aussi bien une personne qui, par son chemin de vie, explore sa relation à l'écoute, ou un acteur de la société qui œuvre pour l'écoute dans la société et le bien vivre ensemble. Il peut aussi s'agir d'un acteur culturel, artistique, associatif ou même sportif. Tous les types de projets sont les bienvenus et l'idée est d'illustrer par l'action ce que veut dire s'écouter, créer du dialogue dans la société. On explore un autre pan de l'écoute, celle des autres, et comment cohabiter en fonction des désirs de chacun dans le monde d'aujourd'hui. L'écoute des autres peut passer par l'art, la musique, la culture, des dizaines, en fait de vecteurs de communication. Je suis Chloé Lenders et je suis accompagnée de Marion Milsan et de Marion C en studio et de Sidi en régie. Bonsoir à toutes et à tous. On vous souhaite pour commencer cette émission une très belle année 2024. On est en début d'année, on vous souhaite tous nos meilleurs voeux. Comment vous allez les filles ce soir pour débuter cette grande année qui s'annonce ?
Comment ça va Marion ?
Moi ça va nickel. Et toi ?
Ça va très bien même, très très bien. Merci. Et toi Chloé ?
Eh bien moi ça va bien, je crois qu'on est toutes très en forme ce soir. On est accompagné en studio aussi de deux amis, Marie et Benjamin, qui vont nous écouter. Peut-être qu'ils prendront la parole tout à l'heure. En tout cas, pour cette émission, on a décidé de ne pas avoir d'invité, un petit peu exceptionnellement, et on va vous proposer une émission un peu spéciale pour commencer l'année, puisqu'on a choisi chacune une œuvre artistique qui va illustrer pour nous un certain pan de l'écoute. Et on va discuter à propos de tout ça. Et c'est Marion C qui va commencer avec l'œuvre qu'elle a choisie. Alors dis-nous en plus.
Alors moi j'ai commencé par choisir une œuvre, un film qui est en fait un film très connu de la culture pop, si on peut dire. C'est Pretty Woman. Donc je pense que beaucoup de gens l'ont vu, mais après est-ce que vous l'avez encore en tête ou quoi ? Je vais vous faire un mini résumé pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Bon, alors pourquoi j'ai eu cette idée ? C'est parce que c'est dans le top 10 des films Netflix actuellement. Donc du coup je me le suis maté pour Noël. Donc voilà, ça part de là. Mais je pensais qu'il y avait des sujets qui étaient assez intéressants et en lien avec ce dont on parle dans l'émission. Donc en fait, le topo du film, c'est du coup, c'est une prostituée. Une prostituée qui fait le tapin dans la rue, en fait, hein, qui rencontre du coup un riche homme d'affaires, même richissime, hein, il est multimillionnaire. Et bien sûr, il ne voulait pas la rencontrer, juste il cherchait son chemin. Il se trompe de chemin, il la rencontre, il lui demande où est l'hôtel, blabla. Et de là, elle lui dit... c'est payant. Et donc, il l'a fait monter dans sa voiture. Alors moi, je ne m'y connais pas beaucoup en voiture, mais c'est une voiture apparemment hyper chère. Voilà.
Une donc, très belle voiture.
Une très, très belle voiture. Elle monte avec lui et elle a envie d'essayer la voiture parce qu'elle se dit « Waouh, une super voiture comme ça, moi, j'en ai jamais conduit. » Donc, il lui passe le volant, voilà. De fil en aiguille, vu qu'ils en sont là, il l'a fait monter dans sa chambre en tout bien tout honneur. Voilà, il lui offre le champagne, mais il n'attend de rien en retour. Et bon, ils vont discuter et il va lui proposer un contrat d'une semaine pour qu'elle soit en fait son escort girl et qu'elle l'aide à décrocher un gros contrat de business parce qu'il était en ville pour affaires. Et voilà. Bon, bien sûr, il est hyper beau gosse, donc c'est un peu, on gagne, c'est le jackpot pour elle, quoi. Enfin, c'est pas présenté comme ça parce que du coup...
c'est ce qu'elle se dit au début, en tout cas.
Ouais, elle se dit ça. Bon, en tout cas, elle se dit, déjà, je vais me faire un bon petit billet. Ça commence comme ça, vraiment. Et donc, du coup, pendant une semaine, elle va vivre sa vie de rêve dans un hôtel de luxe. Donc, c'est vraiment genre... tout ce qu'on peut imaginer, donc elle se fait le room service, il lui paye des fringues, enfin voilà.
D'ailleurs, on kiffe avec elle, quand on regarde le film, au début, on kiffe.
Ouais,
on
est heureux c'est pour ça que j'ai choisi le film, c'est parce que franchement, c'est un feel-good movie, donc c'est un peu, c'est un vieux film, et c'est vrai que c'est un peu bizarre comme sujet, parce que, enfin, Donc on va en venir pourquoi j'ai choisi ce film-là, parce que voilà, c'est un peu un Cendrillon, on va dire, 2.0, avec du coup en ligne de fond la prostitution, même si c'est pas présenté comme ça, c'est un peu romantisé, c'est très romantisé en fait dans le film, c'est vraiment un peu un conte de fées, quoi. Donc ça se passe nickel, grâce à elle, il obtient son super contrat. Et à la fin, forcément, il tombe amoureux et il va partir à New York et il lui dit « Ok, on va pas en rester là, je vais te subvenir à tes besoins, je vais te payer un appart, t'inquiète pas, tous tes frais seront couverts. » Et là, elle s'énerve, elle dit « Mais c'est pas du tout ça que je voulais, moi j'étais hyper amoureuse, machin, etc. » Et il lui dit « Oui, mais attends, c'est déjà cool comme deal, et puis moi je t'ai jamais considérée comme une prostituée. » Et là, elle lui répond « Tu viens de le faire. » Voilà, bon, ça finit là-dessus. Donc elle dit que ça l'intéresse pas du tout. Et elle rentre chez elle, et de là, elle a gagné des sous avec son contrat de la semaine. Et elle décide de reprendre ses études. Donc ça, c'est la quasi-fin. Elle a toute fin. Il vient la chercher parce que du coup...
Gros spoiler là, quand même.
Ouais. Non, mais je raconte tout.
On a tous vu le film.
Voilà.
10 fois.
Je passe sur le... Voilà. Moi, je suis de l'avis de Chloé. Alors, je sais qu'il y en a certains qui ne l'ont pas vu. Mais c'est quand même un peu un classique. C'est un film des années 90 avec Julia Roberts. Je ne l'ai pas mentionné au début.
Donc, et Richard Harrier.
Ouais. Donc, et puis à l'époque, ils étaient hyper jeunes et frais. Donc voilà quoi, c'est vraiment le film des années 90. C'est pas du tout récent ou quoi que ce soit. Et du coup, voilà, donc c'est un très bon film pour passer les fêtes de Noël. Je comprends pourquoi ça a été mis sur Netflix et pourquoi c'est passé en top 1. Mais voilà. Et donc, du coup, à la fin, elle reprend ses études. Enfin, ou en tout cas, elle veut reprendre ses études parce que de toute façon, il va la chercher, ils vont vivre leur love story. Mais du coup... J'ai choisi ce film-là parce qu'en fait, donc tout au long du film, en fait, il lui pose la question « Mais pourquoi t'es devenue une prostituée ?» Et elle lui dit « Bah écoute, c'était pas un rêve de gamine. Hein. » Enfin, forcément, c'est pas un choix. En tout cas, on grandit pas en se disant « Voilà, je vais finir dans la rue. » Donc du coup, moi, je trouvais que c'était déjà un premier sujet intéressant, en fait, parce que, voilà... Comment on en devient à faire... Là, c'est vraiment un choix extrême. Hein, et peut-être que ça ne va pas parler du coup à tout le monde. Mais c'est que parfois, en fait, dans la vie, on est transporté dans une histoire ou des choix qu'on n'a pas décidé et qui ne font pas du tout partie de nos rêves d'enfant, entre guillemets. Donc ça, c'est le premier truc que je trouvais intéressant. Et le deuxième truc que je trouve intéressant, c'est qu'elle avait toujours le rêve de faire des études. Ça, elle le dit depuis le début du film. Sauf qu'en fait, elle n'avait pas de thune. Hein. C'est pour ça qu'elle se prostituait. Hein. Enfin, pour être tout à fait claire, c'était ça son mobile numéro un. Et à la toute fin, donc, elle gagne donc le contrat, c'est 3 000 $. Et j'ai l'impression qu'à l'époque, ça représentait encore plus que maintenant. Donc, elle gagne 3 000 $ pour la semaine. Et hop, elle va, je ne sais plus dans quelle ville, à San Francisco, je crois, pour faire des études. C'est super, mais en fait, elle a pu faire ça parce que, entre guillemets, elle a gagné au loto en rencontrant Richard Gere et en ayant ce client un peu spécial qui la change de son quotidien et qui l'a fait grimper dans une autre vie, une vie qu'elle n'aurait pas pu rêver ou alors qu'elle rêvait mais qui était inaccessible pour elle.
Et donc on peut imaginer peut-être qu'elle a gagné en liberté, enfin, c'est ce qu'elle peut-être elle imagine et ce qu'elle...
tout cas, à la fin, sa vie...
a changé.
Ouais, sa vie change, quoi. Et en plus, il y a... Donc, à la toute fin, en fait, donc, elle vit en colocation avec une de ses collègues slash amies. Et elle lui donne des sous et elle lui dit « Tiens, ça fait partie de la bourse de Richard Gere. » Donc, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, mais donc, du coup, une partie de l'argent qu'elle a gagné pendant cette fameuse semaine. Et elle lui dit « C'est pour que tu continues tes rêves. » Et en fait... C'est un super film et on se sent super... Comme tu dis, c'est un feel-good movie. À la fin, franchement, on se sent super bien. Le seul truc, c'est qu'en fait, ça a été possible, tout ça, pour elle et sa coloc, parce que elle a gagné des sous, en fait. Quoi. En fait, c'était ça la question que je voulais un peu soulever. C'est que, est-ce que c'était possible pour elle, dès le départ, de faire des études ou etc. Ou est-ce que c'est vraiment l'argent qui l'a aidé? Et est-ce que c'est plus facile, entre guillemets, quand, ben, du coup, quand on a les moyens d'aller au bout de ses rêves, ou si c'est accessible à tout le monde? Parce que dans le film, elle y arrive, mais on a quand même l'impression qu'elle a gagné au loto. Voilà. Donc, je pose ça là. Oh, wow.
Mais est-ce que toi, t'as imaginé un peu la suite de, du tournant que prend sa vie à la fin du film? Est-ce que toi, tu l'as imaginé?
Bah alors moi, je savais pas trop quoi en penser après avoir.
Est-ce qu'on se sent si bien que ça à la fin du film?
Franchement, oui, on sent. On sait, c'est une belle histoire. Franchement, c'est un beau film.
Et pourquoi c'est une belle histoire au final? Parce que elle gagne en liberté, elle va arriver à effectuer ses études qu'elle aurait peut-être pas pu démarrer si elle avait pas rencontré cet homme.
Ouais, puis c'est une belle histoire d'amour. C'est vraiment la comédie romantique par excellence. Donc, on regarde le film, on sent bien, quoi. Par contre, après, je me suis posé des
questions. Est-ce que tu t'es sentie mal à l'aise à un moment donné pour elle ou pour lui? Parce que là, l'écoute, du coup...
En fait, c'est ça. C'est, là, ta question, c'est savoir où est-ce qu'elle écoute là-dedans. Est-ce qu'elle s'est écoutée parce que, justement, elle s'est prostituée et que, du coup, elle a pu... faire ses études ou...
Elle a pu s'émanciper.
Bah en fait, pour moi, c'était plutôt est-ce qu'elle avait vraiment le choix de s'écouter au tout début du film? C'est plutôt ça.
Est-ce qu'on a le choix de s'écouter, en fait?
C'est plutôt ça. Parce qu'au tout début... Enfin, puis c'est vraiment présenté comme ça, quoi. Alors, elle est indépendante, elle n'a pas de Mac ou quoi que ce soit, elle choisit ses clients, elle les embrasse jamais sur la bouche et tout. Elle a quelques règles qui montrent qu'elle est indépendante et que c'est elle qui a les cartes du jeu, mais c'est pas non plus un jeu super cool, quoi. C'est juste... c'est juste un... Enfin, voilà.
En c'est fait... peut-être pour aussi garder sa dignité.
Oui, voilà. Alors ça, c'est super important pendant le film. En fait, elle, justement, c'est ça, là-dessus, sur lequel elle joue beaucoup, c'est... Alors, je suis une prostituée, je suis travailleuse du sexe, mais je me suis toujours respectée. Ça, c'est toujours ce qu'elle dit, etc.
Et en fait, justement, on se rend compte dans le film qu'elle perd, elle a l'impression de perdre sa dignité au moment où elle arrive à être dans l'autre monde, où on l'aperçoit différemment, et où ouais, on porte un regard différent sur elle. Et c'est là qu'elle a l'impression de perdre sa dignité. Et
ouais,
c'est là que le film bascule, je trouve.
Ouais, non, mais du coup,
ça fait longtemps que j'ai pas vu là.
Je l'ai vu 20 fois.
C'est ça. Mais c'est vrai, en fait, il y a un switch parce que au tout début, elle a un peu le rôle de la fille du coup pauvre qui n'a pas le choix et du coup bascule dans la prostitution, mais qui se respecte. Et ensuite, elle va dans ce monde un peu, enfin hyper guindé, avec plein de codes, etc., etc. Elle se sent hyper jugée et aussi très mise un peu comme un peu une femme objet. De toute façon, c'est un peu ce qu'elle est, hein, parce qu'il y en a une à un moment donné, elle est dans un dîner et elle lui dit ah t'es le nouveau parfum. You are the new flavor of the month. Donc du coup, genre...
Sur VO.
Ouais, voilà. Bah, je ne sais pas comment ils l'ont traduit, hein, mais c'était ça. C'était le nouveau parfum. Donc du coup, en gros, il change de meuf toutes les semaines, quoi, le gars. De toute façon, il a plein de fric et il nous le répète 50 000 fois dans le film. Donc du coup, il y a ce truc. Voilà.
Et ce que je trouve intéressant aussi, enfin la question qu'on peut se poser, c'est un film autour d'elle, mais aussi le rapport qu'il a, lui, à l'écoute, parce que c'est quand même un film autour de lui aussi.
Ouais, c'est vrai. Tu l'as vu de nombreuses fois.
Non, mais le rôle que Julia Roberts...
Je t'ai pas préparée, moi.
Non, mais c'est parce que c'est elle qui porte le film, clairement. Mais il est là. Enfin, quel est son rôle? Quelle est sa place aussi dans tout ça? Est-ce que lui, à un moment donné, il s'écoute vraiment? En fait, j'ai l'impression aussi que dans le film, c'est lui qui... Il se rend compte que peut-être elle est plus libre que lui.
Oui. Ouais.
Parce que tu vois cette question quand tu dis. Excuse-moi, vas-y.
Non, mais j'allais rebondir sur ce que disait Chloé. Parce qu'en fait, dans le film, ce que j'ai pas mentionné, parce que c'est vrai que c'est une sous-histoire. J'ai été un peu rapidement sur l'explication du film, mais il y a aussi. J'ai fait schématique. Mais en fait, Richard Gere, donc ok, il a plein d'argent, tout ça et tout. Et en fait, son boulot, c'est de racheter des entreprises et ensuite de les démanteler. Et d'en refaire et ensuite de les vendre aux enchères, quoi. Donc c'est pas un mec bien. Ouais, voilà, c'est un gros capitaliste, tout ça, qui est là pour faire du fric. Et au fur et à mesure de l'histoire, parce que l'amène à se confesser et tout ça. On apprend que son père est mort, mais que ça fait 13 ans qu'il n'a pas parlé à son père, que du coup, il avait des relations familiales très, très compliquées et qu'en fait, son père était déjà un homme très riche, mais que du coup, lui, il voulait en fait être plus riche que son père. Donc, c'était un peu une compétition interne qu'il avait. Et donc, du coup, là-dessus, je te rejoins, Chloé. En fait, il n'était pas du tout libre, le gars. En fait, il était vraiment à fond business.
Il se rend compte que ça n'a pas de sens. Ouais. Et puis, elle l'amène beaucoup à l'instant présent aussi, quand on la voit dans sa baignoire, elle écoute la musique, elle kiffe sa life.
Ouais.
Et lui, il la voit subjuguée par beaucoup de spontanéité, beaucoup de... Ouais, elle le ramène à l'instant présent. Et ouais. Je pense qu'il apprend aussi beaucoup à travers elle, à travers sa simplicité.
Ouais,
Il l'observe, il la contemple. Je trouve que ça, c'est aussi intéressant.
Elle lui fait prendre un jour de congé, ce qu'il prenait jamais. Il marche les pieds nus dans un parc et tout. Et bon, je vais spoiler encore la fin ou...
Ouais,
je
suis dans la spoiler, là. Il ouais. faut y aller, là.
Du coup, à la fin, donc, dans son deal, au lieu de racheter l'entreprise pour la vendre en petites pièces comme il fait d'habitude, il rachète l'entreprise, mais il fait un partenariat avec l'autre entreprise pour pouvoir la relever. C'est un bon gars. Mais c'est un bon gars parce qu'il, comme elle dit Chloé, en fait, c'est elle qui le révèle, quoi. Donc du coup, ça pose quand même pas mal de questions sur.
Ça pose la question aussi du rapport à l'écoute qu'ont les hommes et les femmes aussi. Alors dans une autre époque, le rapport qu'ils ont chacun l'écoute par rapport à eux dans la société. Je trouve.
Et entre eux aussi, du coup.
Entre eux aussi, ouais. Parce qu'on est dans une autre époque, parce que le film il date de quand?
Je pense que c'est les années 90 et on le ressent quand même. Moi, je savais pas trop quoi en penser aussi de ce film parce que c'est un... Enfin, je pense qu'en 20 ans, 30 ans, il y a quand même eu pas mal de choses qui sont passées dans la société et je sais pas si ce film, en fait, il sortirait maintenant dans cette...
contexte actuel.
Mais, j'allais plutôt parler de l'esthétique du film. Qu'en fait, enfin, c'est pas juste l'esthétique, mais c'est... Les sujets, comment ils ont été traités, etc. On est quand même dans un truc vraiment très romantique, mais voilà, je trouve pas que le film, par exemple, est sexiste tant que ça. Mais on est quand même dans un truc de
rapport. Je pense qu'on serait moins subjugué aujourd'hui s'il sortait.
En tout cas, ça prêterait à... Enfin, on n'est pas sur le Barbie, là, qui est sorti, où on change les rôles, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un homme ultra riche qui va se marier avec une jeune femme très, très jolie. Enfin, à la toute fin, oui, peut-être qu'elle va continuer ses études, mais c'est pas le message du film, quoi. Le message du film, c'est qu'il la rattrape avant qu'elle parte dans une
autre
ville.
En fait, il la sauve un peu, en fait.
Voilà, oui.
Mais c'est pour ça que s'il sortait aujourd'hui, je sais pas s'il aurait la même... S'il aurait la même portée.
Mais du coup, tu vois, la question, quand tu dis là, l'écoute de soi là-dedans, est-ce que ça peut être un choix? En fait, là, c'est quelqu'un qui n'a pas les finances pour écouter vraiment ses désirs profonds, parce que tu le dis au début, elle a... Vraiment, j'ai oublié ça, mais elle avait envie de faire ses études. Et donc, est-ce que si elle avait eu, en fait, ces finances-là, elle ne l'aurait pas fait dès le début? Et, enfin, donc, du coup, là, elle a fait en sorte de travailler pour financer son projet. Est-ce que... D'une manière ou d'une autre, finalement, on ne fait pas aussi tout ça, tu vois? Est-ce qu'on ne travaille pas pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir peut-être aimer ce qu'on fait après? Enfin, je ne sais pas. Enfin, c'est une manière aussi de gagner son argent, qu'on pourrait juger, gagner son argent par la prostitution ou pas. Mais c'est une question aussi qu'on peut soulever, quoi. Est-ce que l'écoute, là, de soi, juste, j'ai envie de faire mes études et donc je le finance de la manière un peu...
Coûte que coûte, quoi.
Ouais,
quels que soient les moyens.
Là, c'est vrai que c'est dans l'extrême. Mais...
Et ça peut être noble aussi, hein, d'une certaine manière.
Ouais. Après, voilà, là, on pourrait porter un jugement sur comment gagner son argent, mais comment atteindre ses rêves, en fait. Tu sais, quand on se dit, ouais, mais je ferai tout pour accomplir mes rêves et pour le faire. Et du coup, est-ce qu'il y a une mauvaise manière de le faire? Je sais pas.
Une manière plus dure que d'autres, je pense, peut-être.
Bien sûr.
Mais en discutant avec vous, c'est marrant, en fait, parce que je pense qu'on a des façons différentes.
Une lecture différente de jeu.
Parce que ce que tu disais, Chloé, là-dessus, moi, c'est vrai que ça ne m'a pas du tout frappé comme message dans le film. Moi, je suis restée sur le côté un peu genre... approche, on va dire, sociologique, économique des choses. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté où elle prend son temps. L'histoire de la baignoire, là, c'est une scène vraiment un peu marquante. Et pourtant, moi, je ne l'ai pas vraiment mentionné, alors que toi, tu l'as ressorti direct. Donc, du coup, c'est vrai que je pense qu'en fonction des sensibilités, on voit les choses différemment. Et peut-être qu'il y a deux couches, en fait, dans le film, hein, parce qu'il y a... les grands rêves et qu'est-ce qu'on est prêt à... Enfin, le truc un peu pratique.
Jusqu'où on veut aller pour s'écouter entièrement et aller au bout des rêves.
Ouais, il y a le plan de vie et puis il y a le truc un peu...
Et puis il y a aussi... moment, voilà. En fait.
Du moment, parce que tous les deux, ils sont surpris par cette rencontre. Et ils se laissent surprendre et ils se laissent aller dans la spontanéité de la vie, finalement.
Ouais, et il y a aussi un autre message qui est assez important dans le film, je pense, c'est le fait qu'ils viennent de deux mondes différents. Et donc, du coup, lui, il le dit souvent, il dit « j'ai jamais rencontré de femme comme toi ». Parce qu'en fait, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'à chaque fois, les femmes qu'il rencontrait, c'était des femmes un peu stéréotypées qui correspondaient à son monde. Et en fait, elle arrive et elle bouleverse, en fait, les codes et son schéma de pensée. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à là, mais quand même un peu, en fait. Elle lui apporte quelque chose d'autre. Et lui aussi, il lui fait découvrir, entre guillemets, un nouveau monde. Donc là-dessus, on comprend pourquoi ils tombent amoureux l'un et l'autre, en fait.
Oui, ils apprennent l'un et l'autre la différence et la singularité de chacun. Et c'est en ça qu'aussi, que le film est beau, finalement.
Ouais.
Bon, merci Marion C pour ce partage de cette œuvre
mythique. Je vais le revoir ce soir.
Oui, peut-être qu'on le visionnera d'une autre manière après ces échanges. Marion Milsan, est-ce que tu veux nous partager ton œuvre, celle qui t'a inspirée, une petite anecdote peut-être pour commencer?
Une petite anecdote pour commencer? Oui. J'ai vu mon père pendant les fêtes, du coup, puisque mes parents sont séparés. Et donc, mon père, on n'écoute pas forcément beaucoup de musique ensemble, il est beaucoup dans l'écriture. Et il nous avait demandé, avec mon frère et ma sœur, un CD, puisqu'il avait absolument envie d'écouter une chanson en particulier. Il est un peu obsessionnel comme ça sur certains trucs. Et il nous a demandé Les Ballons Rouges de Serge Lama, donc je ne connaissais pas, donc nous lui avons offert le CD.
Peut-être que Sidi en régie peut nous trouver cette chanson de Serge Lama.
Non. si, pourquoi pas. Allez, Sidi, t'es chaud? Allez,
petite
on verra ça tout à l'heure.
Pour ton papa.
Il ne va jamais écouter, mais on peut. Et voilà, et donc, bon, on offre un peu les cadeaux. Et je lui dis, viens, papa, je la mets, quoi. Et en fait, du coup, je la mets. Et à partir du moment où j'ai mis play, mon père n'était plus là. C'est-à-dire que vraiment, il est rentré dans le son. Et donc, nous, on continue à parler. Parce que déjà, cette chanson, on a écouté un peu, mais d'oreilles distraites, c'était plutôt sur le côté, tu vois. Il était dans le son, quoi. La chanson s'est terminée. Il est revenu à nous, en fait, un peu. Et puis, il nous a reparlé normalement. Mais j'ai trouvé ça très beau, en fait, là, je vais vraiment écouter le son. Et donc, je peux pas écouter, en fait... Je peux pas écouter ce qui se passe là.
Dans le brouhaha du moment, il a réussi à faire corps avec la musique.
C'était important pour lui d'être vraiment présent sur cette écoute de... Il y a une chanson, il y a des paroles qui le touchent et je suis là, tu vois, et j'écoute ça. Bref, j'ai trouvé ça très beau. C'était ma petite anecdote pour commencer.
Attends, avant de continuer...
Vous allez mettre... Ouais. Mais quoi, t'as retenu le chat.
Donc les ballons rouges de Serge Lama.
Vas-y, Sidi.
Je n'ai pas eu de ballon rouge. Quand j'étais gosse dans mon quartier, dans ces provinces où rien ne bouge, tous mes ballons étaient crevés. Je n'ai pas eu de vraies vacances.
Ok, merci beaucoup Sidi. Serge Lama, Les Ballons Rouges, si vous avez envie d'écouter toutes les paroles. Voilà, c'est chose faite.
Et il l'a découvert cette chanson
ou
il la connaissait?
Non, pas du tout, justement, il nous l'a demandé. Moi, je l'ai découvert à ce moment-là. Mais c'était un moment assez poétique et assez beau. Mais ce n'était pas de ça dont je voulais vous parler, les filles. Mais merci de m'avoir poussée à raconter une petite anecdote. Non, je voulais vous raconter, moi, donc j'ai réfléchi à une œuvre et je me suis dit, c'est durant ces quelques jours de congé, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle La Panthère des Neiges. Alors, je sais qu'il existe en livre, Mais... Il est sur Netflix aussi, non ? Il est sur Netflix, ouais. Mais dis donc, on n'a pas l'abonnement toutes les deux.
Ouais. Et il est dans le top 10 aussi, non ?
Ah non.
Non, même pas ?
Non, mais même pas du tout, en fait. Okay. Il est sur Arte. Ah, non, non, il n'est pas sur Netflix.
Autant pour moi.
Et ouais.
Du coup, là, tu nous parles du reportage ou du film ?
Non, du...
Parce que le film est sorti avec Sylvain Tesson.
Bah, c'est ça.
C'est celui-là, ouais.
Ouais, c'est ça. Je sais qu'il en a fait un livre, mais non, là, c'est... Donc, c'est Sylvain Tesson, qui est un écrivain voyageur, qui part avec Vincent Munier, qui est un photographe animalier. Et vraiment, j'ai adoré ce documentaire. Ça m'a énormément touchée. Ça m'a fait du bien, en fait, je crois, de le voir, de le visionner. Donc, ils partent tous les deux au Tibet pour tenter d'apercevoir la panthère des neiges. Et durant tout le documentaire, on peut voir que pour Sylvain Tesson, c'est pas si facile, en fait, d'être simplement là, assis, à attendre que la panthère arrive, sans certitude aucune qu'elle vienne, d'ailleurs. Donc, on le voit, il est un peu agité. Parfois, on sent qu'il est prêt à perdre patience. Et j'ai eu l'impression, en fait, en visionnant, qu'on apprend un peu avec eux. Bon, à juste être là et à écouter la nature. Et d'ailleurs, Sylvain Tesson, lors d'une interview, et je le cite, il dit « On passe sa vie dans l'agitation, dans le manque d'attention aux choses, dans une indiscrétion totale et dans un vacarme effroyable, alors que faire tout le contraire des réflexes de nos vies, c'est-à-dire être attentif, discret, silencieux, patient, être à l'écoute, tout à coup, ça nous remplit. » Et ça m'a fait vachement réfléchir sur ma propre capacité, moi, d'écoute. Écouter ce qui m'entoure sans avoir de réponse à donner, forcément. Et je pense que j'ai souvent tendance à utiliser le verbe « regarder » ou « observer la nature » et peu « écouter ». Alors parfois j'écoute quand je vais en forêt ou même quand je vois la mer et j'écoute, mais c'est un temps. C'est pas longtemps dans le temps. Et quand il a fallu donc du coup un peu préparer l'émission, c'est ce documentaire qui m'est venu parce que je sais pas, ça m'a donné envie de partir dans la nature, de marcher, d'avoir juste rien en fait, juste moi, d'être là et de m'asseoir et écouter. Et je trouve que dans notre émission, on parle de soi, on parle de l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, l'écoute de nous en société, mais finalement l'écoute du monde. Ça passe aussi par un truc qui est assez primaire, en fait, qui est juste ce qui est déjà là. Des choses simples, en fait, juste s'asseoir et écouter ce qui nous entoure, la vie qui est à nos côtés, sans chercher à chercher, justement, ce son ou ces sons. Et ça m'a fait vachement penser à l'émission qu'on avait faite avec Olivier et Hélène la dernière fois, où on parlait du silence. Et ils disaient qu'il n'y a pas d'écoute sans silence.
Ah oui, les fondateurs du Parvis des Arts.
Exactement.
Oui, qu'il y avait une vraie différence entre l'écoute...
Bah que l'écoute ne peut pas exister s'il n'y a pas de silence, par exemple.
Tu vois, que les silences ont leur importance.
Exactement. Il y a, je parle, il y a je t'écoute, mais il y a aussi ce silence qui est aussi comme une espèce de troisième personne qui est là. Et bah, je le disais un peu dans l'émission, je pense que moi, j'ai peut-être parfois du mal à accepter le silence. Tu vois, toujours un peu en mouvement... dans cette agitation, et le silence est quelque chose finalement que j'ai envie beaucoup plus d'accepter et de mettre en pratique. Et c'est le silence, mais c'est aussi prêter attention aux choses. Et dans ce documentaire, c'est ce qu'on voit, tu les vois juste observer ces petits riens, mais qui en fait deviennent un tout. Et dans le documentaire, ça prend toute sa place. Et je sais pas, je me suis vraiment moi aussi sentie. Apaisé en paix.
Mais je pense que clairement l'écoute est très en lien avec la contemplation.
Ouais, et je pense en tout cas pour moi que peut-être que je contemple pas assez et que je pense qu'on peut s'écouter, on peut écouter de la musique comme mon père l'a fait là quand il écoute la musique, on peut s'écouter là entre nous à la radio, mais aussi écouter le rien.
Mais j'ai l'impression que, je ne sais pas ce que tu en penses aussi Marion, c'est, mais que la nature nous apprend à mieux regarder, mieux écouter et nous relie plus à ces silences. Elle nous met moins mal à l'aise dans la nature puisque ça fait partie de la nature.
Ouais, et puis en fait, il n'y a pas de silence finalement quand tu écoutes. Enfin, tu vois, quand tu restes assise là à regarder, en fait, tu as le vent, t'as les feuilles que tu peux entendre dans les arbres, t'as la mer si t'as ça à côté, t'as les animaux qui passent, t'as les oiseaux, t'as les mouettes. En fait, finalement.
Et à Marseille, j'ai l'impression, on peut être dans un brouhaha énorme, mais dès qu'on va au bord de la mer, t'as le bruit des vagues, tu fermes les yeux.
Ouais.
Et là, ça te ramène au présent.
Il faut prendre ce temps. Tu vois,
ouais. Et je trouve que c'est en ça que cette ville, elle est incroyable. C'est qu'il y a la nature qui est un petit peu omniprésente quand même. Et qu'on peut vite s'y retrouver, que ce soit dans les calanques, au bord de l'eau, ou plutôt dans les terres du côté du pays d'Aix. Ouais, des moments de grâce.
Ouais, c'est ça.
Et toi, c'est quand le dernier moment de grâce que tu as vécu?
Bonne question.
Mais peut-être qu'en ville aussi, on peut en vivre certains moments.
Ouais, je pense quand même. Ben, ouais. Ouais, vas-y.
Ben, par exemple, moi, alors, moment de grâce, c'est un peu un terme assez fort pour juste un moment de la vie de tous les jours. Mais cet après-midi, je me baladais dans le centre-ville. Et en fait, je ne sais pas en fait, si jamais dans le centre-ville, il y a eu un lâcher d'oiseaux exotiques. En tout cas, vers chez moi, il y a un peu des perruches dans les arbres. C'est un peu bizarre parce que...
Mais je crois que je les ai vues, Marion.
Ouais.
J'ai une
idée. C'est des perruches vertes, en fait.
Je vois de quoi tu parles.
Elles sont beaucoup, hein. Il y en a une dizaine, en fait. Ouais. Et elles n'ont rien à faire là. C'est des perruches qui se sont échappées, je pense. Et en fait, on les voit et on les entend. Et je me baladais et je les ai entendues, bah, comme tu le mentionnais avec le film. Et ça a duré une fraction de seconde, mais en fait ça m'a un peu arrêtée dans mon quotidien et j'ai repensé à ces perruches et je les vois souvent en fait parce que je pense qu'elles sont pas loin de là où j'habite et je me suis dit ah, c'est fou ces perruches, d'où elles viennent et tout, et ça m'a coupé dans mon quotidien quoi, et parce que c'est un bruit de la nature en fait, c'est pas, je pense pas que ça m'aurait fait ça avec un bruit de bus, mais parce que du coup c'est...
ah bon bah dis donc.
Mais ouais. c'est ce qu'on disait, c'est le peu de nature qu'on a en ville et c'est vrai qu'à Marseille, on est peut-être un peu plus gâtés que dans d'autres villes de France.
Je pense qu'il faut avoir la capacité de prendre le temps et de regarder, de contempler. On y revient quand même voir ces perruches. Il faut quand même lâcher son portable, regarder ce qui nous entoure, regarder les autres et lever un peu les yeux au ciel d'ailleurs, parce que ces perruches, elles sont bien...
Non mais tu vois, tu dis ça et en fait je me rends compte que quand je travaillais dans mon ancien taf, j'étais un peu DJ, je mettais le son je mettais l'ambiance et du coup je me souviens que j'avais mis un moment parce que j'en avais marre parce qu'on entendait vachement les bruits des voitures, du trafic et tout, j'avais mis playlist chant d'oiseaux, donc de 60 minutes, hein, entendre des petits cuicuis, et en vrai je me suis dit mais quelle tristesse, je suis là à mettre une playlist de 60 minutes de chant d'oiseaux, enfin... Et je l'ai encore dans ma playlist, mais je me dis waouh, enfin, tu vois, parfois c'est important de se dire oh, attends deux secondes, c'est pas des bruits naturels que j'entends là, c'est aussi intéressant de se dire et genre si juste quand il y a rien autour de moi, c'est quoi, tu vois, c'est quoi le bruit, qu'est-ce qui m'entoure en fait.
Et ça me fait penser, alors c'est pas sur les chants d'oiseaux, mais c'est sur les aquariums. Pourtant, c'est des animaux qui sont en
silencieux.
Silencieux et en plus pas libres. Mais il y a des études qui ont été prouvées comme quoi, quand on regarde un aquarium, on se calme direct. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a souvent dans les salles d'attente, de temps en temps, dans les salles d'attente des médecins, etc. Parce que ça apaise de
ça
regarder les poissons. Ouais.
Qui est un poisson chez soi.
Donc toi, Marion, c'était les perruches qui t'ont ramené un petit peu à
moi,
ce...
Ça, oui, parce que c'était...
À Marseille.
C'est mon moment de grâce.
En fait, oui, c'est ça. C'est un moment de nature, quelque chose qui était peut-être pas planifié, et aussi parce que ça sort un peu du quotidien. Est-ce que je m'en serais rendu compte si c'était juste des merles? Je sais pas. Parce qu'il y a aussi ça. Quand c'est quelque chose de nouveau ou un peu d'étonnant, là, on va prêter plus attention. Par exemple, quand on voyage. Quand on voyage, on est émerveillé de plein de trucs, même dans la ville. Hein. Enfin, franchement, tu vas à Bangkok, tu vas aller au marché. Enfin, je suis jamais allée à Bangkok, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais enfin, voilà, un truc un peu exotique. Tu vas aller au marché... t'acheter, je sais pas moi, une papaye tout de suite, ouais, voilà, des fruits, tu vas manger ta papaye, tu vas dire ouah, c'est génial, c'est super bon ça, le goût du soleil et tout. Franchement, tu vas à Noailles, tu vas acheter des papayes parce que c'est pas cher, ça va pas du tout te faire la même,
ça pas la même saveur,
non. Et du coup pour moi c'est le côté un peu comment tu cadres ça dans ta tête en fait. Est-ce que t'es en mode voyage comme dans le film là dont Marion nous parlait, parce que c'est vraiment, j'ai pas vu le film mais j'ai lu le bouquin, c'est en mode vraiment aventure quoi. Donc ils partent, ils savent pas trop où, etc. Du coup,
ils vont à la recherche d'une panthère qu'on ne voit jamais. C'est ça aussi, ouais, c'est la rareté la de la panthère.
Ouais, ouais, bien sûr.
On la voit pas bien.
En fait, si Marion, on la voit. Okay. Mais enfin, en tout cas, dans les images que j'ai vues, m'aurait-on menti? Mais non, non, je pense que si on la voit, en fait, okay. c'est au-delà de, on la voit, on la voit pas. C'est il y a cette certitude que peut-être on ne va pas la voir. C'est ça aussi qui
ouais,
est
peut-être
beau.
Qu'ils sont venus pour rien, quoi.
Ouais.
Oui, ils partent, dans mes souvenirs, c'est que Sylvain Tesson dit, c'est qu'ils vont à la rencontre de cette panthère, mais ils ne sont pas certains de la rencontrer, en fait.
Bah non. Mm. Et je crois, vers les derniers jours, ils la voient, quoi. Moment de grâce, pour le coup, pour eux.
Et toi, ton moment de grâce, Marion ?
Ouais, et bah, j'y réfléchissais, oui. Je crois que c'est à Noël. J'étais avec toute ma famille dans la maison de mes grands-parents, et ma grand-mère est morte il n'y a pas très longtemps, et il y a eu un ciel incroyable, vraiment trop trop beau. Et on s'est tous regardés, on s'est dit, on avait pris une photo de famille justement sous ce ciel en se disant, bah c'est eux en fait. Et je trouvais ça très beau, et je pense que c'était, bah encore une fois, c'était un moment dans la nature finalement. Mais peut-être que tous les moments de grâce se passent aussi dans la nature, mais en tout cas avec des gens aussi. Et ouais, c'était un beau moment pour moi. Et toi, Chloé ?
Le dernier moment de grâce, si on peut le dire comme ça, je crois que c'était pendant les vacances aussi, du côté de Grenoble dans les Alpes, où il avait beaucoup, beaucoup plu, et il faisait gris, c'était le brouillard, et tout d'un coup, ça s'est éclairci, il y a eu un rayon de soleil, j'étais en famille, et tout le monde s'est arrêté de parler, on s'est regardé, on a regardé ce ciel, et il y a un arc-en-ciel qui est...
Oh.
Oui, c'est un petit peu... Mais c'était très
non,
beau.
Non, c'est bien.
C'était très beau, et mon petit neveu de 1 an qui a vu ça, et je pense que même lui, ce moment de grâce, il l'a vécu avec nous, et c'était très beau.
Tu veux nous parler de quoi, toi ?
Eh bien moi, ça me fait penser à ce qu'on évoque là, un livre que j'aime beaucoup, un auteur que j'aime beaucoup, c'est Christian Bobin. Et dans ses livres, dans ses nombreux livres, il nous ramène beaucoup à la simplicité des moments de vie et le fait d'habiter poétiquement le monde, la vie.
C'est très toi ça. Hein.
De la poésie. Et j'ai sélectionné un petit passage qui me plaît beaucoup, qui est très beau et qui explique... la fragilité du monde et comme quoi il faut être attentif à tous ces petits moments qui peuvent être rien au début et en fait qui sont énormes. Contempler est une manière de prendre soin. C'est casser tout ce qui, en nous, ressemble à une avidité, mais aussi à une attente ou un projet. Regarder, c'est mouvoir de l'absence, de différence entre ce qui est en face de nous. J'ai là sous les yeux, dans cette forêt, quelque chose qui est beaucoup plus riche que tout ce qu'un musée ne pourra jamais s'offrir. Dans l'ordre, un peu de mousse, un peu plus loin des ronces, une fougère que le soleil traverse comme un vitrail. Cette fougère est sainte par sa mortalité, par sa fragilité, par le fait qu'elle va connaître le dépérissement. Que faire de mieux que de saluer ceux qui sont dans le passage avec nous ? Ce serait beau de bâtir toute une conversation autour de cette fougère. Le monde est rempli de visions qui attendent des yeux. Les présences sont là, mais ce qui manque, ce sont nos yeux. Qui la voit, cette petite fougère prise dans une branche épineuse ? Le vent la connaît, le vent lui parle.
C'est vachement l'enlien,
c'est
je
beau,
trouve.
Non
c'est... Méga beau.
En fait, tu n'as qu'à regarder la nature et t'as un poème
ouais.
qui se révèle.
Ouais,
c'est
ouais.
ça qui est incroyable. Et cette fougère qui paraît tellement fragile, si tu la vois, elle est magnifique, elle est fabuleuse. Mm.
Mais c'est, enfin, tu vois, c'est ces choses simples et ça, enfin, je trouve que c'est aussi assez en lien avec là le documentaire dont je parlais. En fait, c'est ce lien à la nature, ce lien aux toutes petites choses sur lesquelles peut-être on marche, tu vois, ces petites mousses sur lesquelles on marche sans prêter attention. Et tu t'arrêtes et tu te dis, waouh, attends, mais elle est là, tu vois. Ouais.
Et c'est la nature souvent ouais, qui nous y ramène, mais peut-être que c'est ouais. le contraste aussi du fait de vivre dans les villes. On est des citadines toutes les trois, mais on adore passer du temps dans la nature. Et c'est peut-être ce contraste aussi qui fait la beauté des choses, parce que si tu vis tout le temps nature, est-ce que tu le vois encore ?
Moi, je pense que tu le vois encore, ouais.
Ouais ?
Ouais, je pense vraiment qu'il y a un truc avec la ville qui est, entre guillemets, pas naturel. Pourtant, j'adore vivre en ville. Et après, c'est un avis qui est totalement personnel. Hein, mais j'ai l'impression quand même, quand on regarde un coucher de soleil ou un lever de soleil, c'est fabuleux dans tous les cas. T'en vois un, t'en vois 10. Ça te... Voilà, tu te sens plus petit que quelque chose. T'as quand même un lien où tu te dis, je fais partie de quelque chose de plus grand,
de plus grand.
L'univers, etc. etc. Quand t'habites en ville, tu perds un peu ce lien. et plus tu habites en grande ville, plus c'est le cas. Et moi, je sais que, par exemple, quand je vais à Paris, parfois j'y vais pour le travail et j'y passe pas beaucoup de temps. Eh ben, il y a moins d'arbres qu'ici. Il n'y a pas... dans le centre-ville.
Il y a plus de parcs à Paris qu'à Marseille.
Il y a des parcs, il y a des sous le temps.
Mais en tout cas...
Oui, on voit bien la parisienne.
Non, arrêtez. Je vais faire un jet, merde.
Non, mais en tout cas, dans le centre... Enfin, c'est quand même un peu... C'est vrai qu'il y a plus de parcs.
Il y a beaucoup de parcs.
Il y a beaucoup de parcs. Mais si tu n'es pas dans les parcs, si jamais tu es sur les grandes avenues, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Oui. Et en tout cas, les buildings sont plus grands, etc. C'est et tu n'as pas la mer. Du coup, tu n'as pas ce truc un peu d'horizon.
D'horizon, c'est vrai, totalement.
Mais quand même Paris, parce que Paris, j'y ai aussi habité. Je l'aime d'amour, cette ville. C'est ma ville de cœur, quand même. Et pourtant, c'est une ville. Mais je trouve quand même qu'il y a des moments de grâce qui peuvent s'y vivre. Et notamment, et c'est en lien avec un autre passage que j'aimerais vous lire d'un autre livre, c'est dans les musées. Un musée d'ailleurs que j'adore, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Rodin. Le musée Rodin. Et... c'était des moments de grâce que j'ai vécu dans ce musée où j'y vais seule, parce que pour vivre ces moments, il faut y être seule. Et il y a une statue que Rodin a réalisée que je trouve sublime, c'est la Danaïde, qui est vraiment très belle et qui est placée dans ce musée, un endroit face au parc. Et il y a souvent, enfin quand tu y vas et qu'il fait beau, il y a souvent un rayon de soleil qui jaillit sur le marbre de cette statue qui est magnifique. Et ça, c'est des moments de grâce que tu peux trouver quand même dans les villes. Si tu regardes bien, il y en a. Et les musées, je trouve que ça nous y amène.
Mais du coup, est-ce que c'est dans les villes ou est-ce que c'est lié à l'art ?
C'est une bonne question.
Parce que tu vois, et aujourd'hui j'étais très attentive, parce qu'en rentrant chez moi aussi, je me suis rendu compte, et je me suis dit, je ne l'ai jamais vu, sur ma façade d'immeuble, en fait il y a comme un petit renfoncement, comme si en fait, je pense qu'avant il y avait une statue, et la statue elle n'y est pas. Et je me suis dit, mais ça fait plusieurs années que j'habite ici, et je ne me suis jamais rendu compte qu'il y avait cet endroit pour une statue. Et en fait, en t'écoutant, ça me refait penser à ça, parce que si jamais il y avait encore la statue, en fait tu peux te balader, voir la statue, du coup, un peu comme ce que tu racontais avec le musée Rodin. Et peut-être que tu peux revenir à un truc essentiel. Et si jamais, tu vois, tout dépend en fait où est-ce que tu habites dans la ville. Enfin, je veux dire, on prend l'exemple de Paris, désolé Marion, mais par exemple, la Défense. L'extrême, genre, devant la Défense, tu vas pas avoir ce truc-là.
Mais est-ce qu'on peut pas avoir aussi un moment de grâce avec les gens ? En fait, tu vois, tu peux aussi avoir un moment de grâce parce que tu passes un moment magnifique avec. Je sais pas, quelqu'un que tu rencontres dans la rue, un ami, une amie, enfin, tu vois, c'est aussi, c'est pas que ce qui nous entoure.
Je suis d'accord.
Oui.
Mais
nous qui parlons. Mais je pense que t'as quand même raison. C'est peut-être pas tant la ville qui fait ces moments, mais l'art.
Oui.
Et l'art se trouve quand même dans les villes aussi. Et ça fait ça fait écho à un passage du livre de Sybille Veil, donc qui est la présidente et directrice de Radio France, qui a sorti un livre au commencement de l'écoute. Non, au commencement était l'écoute. Et elle parle aussi du rapport des artistes avec cette écoute, justement. Cette force agissante de l'écoute, des artistes de tout horizon l'ont depuis longtemps perçue et exprimée à l'image du poète Alfred de Musset qui, dans son poème La nuit de mai, écrit « La bouche garde le silence pour écouter parler le cœur, comme si de l'écoute naissait toute création. Pour être vraiment réceptif, il faut écouter l'œuvre. » Comme si de l'écoute naissait aussi toute émotion, comme s'il fallait se taire un instant pour qu'advienne la beauté. Et c'est exactement ce que j'ai vécu dans ce musée Rodin, c'est qu'à un moment donné, il faut se taire un instant et juste contempler pour que la beauté du... En tout cas, là, en l'espèce, c'était une statue, pour qu'elle soit belle. Parce que si tu passes juste comme ça, tu peux ne presque pas la voir. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis assise pendant un quart d'heure, j'y étais... Il y a des gens qui passent à côté, qui ne la voient pas. Tu peux passer à côté de moments comme ça.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas passer... Alors du coup, j'extrapole. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas passer justement à côté de beaucoup, beaucoup de moments, en fait, de grâce parce qu'en fait, au final, il y en a plein dans le quotidien. Je pense... Enfin, là, c'est un avis personnel, mais j'ai quand même l'impression qu'en fait, ça peut arriver à tout moment. Mais c'est juste, est-ce que tu vas regarder le ciel avec les nuages ? Est-ce que tu vas t'arrêter devant la statue ? Après, je pense qu'il y a peut-être un côté état d'esprit, quoi, si jamais... T'as beaucoup de problèmes dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu t'arrêtes ou pas? Ou est-ce que justement, le fait de regarder, ça fait que tes soucis passent un peu...
Que tu peux dépasser ces problèmes qui, d'ailleurs, tu penses être des problèmes, finalement, qui sont des petits tracas.
Ouais, en fait, c'est ça, contempler. Mais il y a se taire, et tu peux te taire en écoutant. Tu peux écouter de la musique, des podcasts, des émissions de radio, enfin... Puis il y a aussi se taire sans le rien autour. Et le fait, en fait, j'ai l'impression que c'est aussi le fait d'être pleinement là.
Ouais.
En fait, ce moment de grâce, c'est quand t'es pleinement là.
Ouais, c'est l'instant présent.
Ouais,
quoi.
C'est ça.
C'est peut-être plus facile de toucher cet instant présent quand t'es dans la nature, peut-être.
Ouais, oui. T'as moins de choses qui t'accaparent, en fait.
Ouais.
C'est facile de tomber dans l'hésitation, dans le mouvement, dans tout ce qui t'entoure et cette espèce d'effervescence qui est. C'est un peu jouissif aussi, hein, tu vois, genre la ville, il y a quand même un côté chouette là-dedans. Mais peut-être qu'il est temps qu'on parte en week-end, les gonzes.
Non, mais en tout cas, je pense que la nature nous y amène. Mais c'est vrai que l'art, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de la musique. Il y a beaucoup de musique qui, quand tu l'écoutes vraiment, tu fermes les yeux et elle te fait du bien aussi. Il y a beaucoup de musique qui nous font du bien, qui nous transcendent, quel que soit d'ailleurs la musique, le style. Il y en a une comme ça qui vous...
Plein.
Qui vous fait du bien.
Je trouve que c'est vachement dur, la musique.
Alors là, franchement, moi, je vais aller en contresens, mais je pense que c'est moi-même. J'arrive... Enfin, pourtant, j'ai fait de la musique pendant hyper longtemps, mais peut-être ça m'a... Justement, ça m'a hérissée. J'arrive pas à me plonger dans la musique comme... Je sais que la plupart des gens vont se lancer là-dedans, mais par exemple, moi, j'ai pas de compte Spotify.
T'écoutes pas de musique?
J'écoute
très peu.
Pas trop de musique.
Ah oui?
Ouais. Genre, par exemple, je me suis rendu compte ce week-end que mon poste de radio dans ma voiture fonctionnait pas.
T'as une voiture depuis combien de temps?
Non, il fonctionnait avant. Mais, mais du coup, j'étais avec mon mec dans la voiture, il me dit, mais depuis quand il fonctionne pas? Et je sais pas.
Ah oui.
Ouais, ça fait peut-être un mois, deux mois, et je m'en suis pas rendu compte. Et je pense que ça arrive pas à tout le monde. Que beaucoup de gens
s'en seraient rendus compte. Non, ça doit être assez rare, je pense, ouais. Mais ça a toujours été le cas ou...
Ça a toujours été le cas, mais ma mère est comme ça. Et c'est pas un truc... Enfin, je pense que je me coupe d'un lien avec l'art et de quelque chose qui peut me transcender.
Non, mais du coup, en même temps, tu peux conduire en étant juste en silence.
Ouais. Mais c'est vrai que du coup, je me souviens jamais des groupes de musique que j'écoute. Enfin, j'en écoute, hein, mais c'est vraiment... Si les autres y mettent... je vais jamais penser moi-même à écouter la musique, quoi. Marrant.
Ouais. Oh, parce que toi, Marie-Milson, t'écoutes beaucoup de musique. Toi, tu danses en plus, donc t'as un rapport particulier aussi.
Ouais, c'est vrai que je pense que ça m'a toujours... Je me souviens que j'avais écrit dans un journal intime, à 8 ans, la musique, c'est la vie.
C'est vrai.
J'avais relu ça et je m'étais dit, voilà,
Autant elle peut être source de joie, de beaucoup de joie, mais elle peut aussi te rendre triste. Je pense qu'il y a des moments où tu peux écouter certaines musiques.
Ouais, bien sûr. Mais c'est un peu...
Qui sont nécessaires.
J'ai l'impression que c'est un peu le reflet un peu de nos émotions. Enfin, de toute façon, je sais pas, il y a des périodes de ta vie où tu vas vouloir écouter des trucs un peu plus disco, un peu plus folk. Non, je sais pas. Enfin, moi, je sais que je suis très... Il y a des moments où je me sens vraiment très bien, par exemple, et genre, je sais pas, mon compte me donne...
Dernière musique, Marion Milson, que t'as écoutée avant l'émission.
Non, j'ai honte.
Non, Serge Lama.
Voilà, c'est exactement ça. Moi, je sais plus, il faudrait que je regarde. En vrai, je pense que c'était un petit Jules. Et toi?
Moi j'aime bien Jules.
Ah, mais Marion,
j'écoute
pas de musique, j'écoute que du Jules.
J'écoute des trucs un peu mainstream, on va dire.
Et toi, Clo?
J'écoute beaucoup, il y a un groupe que j'aime beaucoup, un groupe parisien, c'est Feu Chatterton. Je sais pas si vous connaissez.
Ça me dit un petit truc.
Et il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Souvenir. Si vous voulez, je peux vous lire quelques...
Lire, mais grave.
Quelques paroles.
Tu veux chanter?
Je n'ai pas du tout préparé cette émission.
Chante, bébé, chante.
Non, je ne chanterai pas. Je vais vous lire un petit refrain que je trouve très beau et c'est une musique que j'aime beaucoup. Peut-être que Sidi peut la trouver pour qu'on puisse l'écouter quelques minutes. J'aimais ta peau dorée, toi qui me donnais tout, dans ta main délivrée, j'aimais la peau dorée et maintenant je pleure ton nom. Un oiseau chante, je ne sais où, c'est, je crois, ton âme qui veille. Les mois ont passé, les saisons, mais moi, je restais le même. Qui aime et qui attend que revienne le printemps, qui aime et qui attend de reconnaître un jour le printemps. Nous ne reverrons plus sur terre, dit le poème, le passé vient plus vite qu'on le pense. À genoux, j'implore ciel et mer, et ce brin de bruyère, un souvenir pour récompense. Quel est cet endroit où, dans l'ombre confuse, les démons et les anges se mélangent, Ah, je te rejoins dans cette brume épaisse, que le tabac, le bon joint, obscurcisse, alors je pleure ton nom. Voilà, il y a des musiques comme ça qui nous rappellent des souvenirs.
Ouais, et c'est fou parce que là, bien. Tu l'as lu et on dirait un poème, quoi. Il y a beaucoup de... Mais t'es très poème, toi, Claude, tu lis quand même pas mal de poèmes.
La poésie fait partie pas mal de ma vie.
Ouais. Moi, moins. Enfin, mon père, beaucoup. Et donc, j'ai baigné un peu dedans, mais j'écris peu de poésie. Et j'étais moins sensible à la poésie. Et j'ai trouvé qu'il y a quelques périodes de ma vie où la poésie m'a touchée en plein cœur. Enfin, vraiment plus que n'importe quel texte. Parfois, j'étais en mode « waouh ».
Après, tu as un rapport assez poétique à la vie, puisque tu écris quand même beaucoup.
Ouais,
tu as la délicatesse des mots, les mots bien choisis, la spontanéité de... Ouais, des mots qui viennent, qui
ouais, j'aime bien ça. J'aime bien. Mon petit moment de grâce, moi, c'est m'asseoir à une terrasse de café au soleil et
une terrasse parisienne, peut-être.
Non, arrêtez. J'adore Marseille, arrêtez. Non, non.
Avec un petit café ici, au soleil.
Je suis ici, donc c'est que j'aime bien ici, au contraire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Encore mieux si c'est face à la mer. Alors là, ouais. Et toi, Marion, est-ce que tu aimes la poésie?
Alors oui, mais est-ce que je suis aussi... je suis un peu comme toi, Marion, je pense. Il y a des fois, en fait, j'essaye d'en lire et ça me... Je trouve que c'est en fait, c'est un peu peut-être inaccessible par certains textes.
Oui.
Les auteurs classiques, etc., qu'on a vus à l'école. Alors, c'est super beau, le fait qu'ils arrivent à trouver des rimes comme ça, en 12 temps, etc. Mais peut-être c'est peut-être un peu trop compliqué. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas forcément accessible. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des textes qui résonnent aussi. Mais c'est pas forcément ça que j'irai lire si je cherche en fait peut-être du de me conforter ou de lire un livre au coin du feu. C'est pas vers là que je vais me tourner. Je vais plutôt regarder un roman.
Toi, tu lis beaucoup par contre aussi.
Je lis beaucoup, ouais. Je lis plus des romans ou aussi un peu de tout, franchement un peu de tout. Mais par exemple, la poésie, je vais pas y aller forcément de moi-même ou en premier choix. En général, souvent, je loue des livres à la bibliothèque. Donc parfois, je me dis, allez, je vais tenter cet auteur. Et je sais pas, je pense que j'ai pas la patience, en fait. Donc j'ai besoin, en fait, un peu d'une histoire qui m'entraîne. Et là, du coup, je vibre avec les personnages, etc., etc.
Après, moi, je pense qu'il y a des textes qui te trouvent.
Oui.
Tu vois, un jour, tu lis un texte et... ça te touche. Et à ce moment-là, parce que c'était le moment, parce que t'es dans... Moi, c'est comme ça, en tout cas, que la poésie, ça me parle, quoi.
C'est pas tant les poèmes, mais c'est la poésie des moments de vie. Ce qu'écrit Christian Bobin, c'est en ça que ça me touche beaucoup. Et Benjamin, qui est là avec nous et qui nous écoute attentivement. on en parle souvent, on habite tous les deux donc Marseille, dans le même quartier, et on est un peu les mêmes sur ça, c'est qu'on aime prendre des chemins pour aller à son travail ou dans des cafés, rejoindre des amis. On essaie de prendre des chemins qui sont jolis. Et à Marseille, t'en as beaucoup, t'as des rues très merdiques et vraiment sombres, mais t'en as aussi des très belles, et de choisir un chemin différent chaque jour, ou alors de lever les yeux, si tu lèves un peu les yeux, t'as de la poésie en fait, et elle t'entoure, et tu peux la vivre comme ça. Mais c'est pas forcément dans les recueils ou dans les livres, mais la poésie, j'ai l'impression, enfin moi c'est comme ça que je vis la vie, c'est qu'elle nous entoure, et c'est ça qui fait la beauté de la vie, quoi.
Je te décrirais bien comme ça en plus. C'était quand même une personne pour moi très poétique. Mais ça me fait penser à un de mes livres préférés qui s'appelle, mais je crois que j'en ai déjà parlé, La première gorgée de bière et tous ces autres petits plaisirs quotidiens. Mais trop génial. J'adore ce livre. Et en fait, c'est plein de petits moments de grâce, en fait. Je crois que c'est vraiment des petits moments genre, voilà, tu sais, cette journée où t'as eu chaud, ou je sais pas, t'as pu partir en rando, et puis juste tu prends cette première gorgée de bière qui est fraîche et qui te fait du bien, ou alors cette odeur de café le dimanche, ou alors quand tu vas écosser tes petits pois avec ta grand-mère. Enfin, et c'est plein de petits moments comme ça, et qui sont trop beaux, parce que ce livre, c'est plein de recueils de moments de grâce, comme ça. Et c'est trop beau, mais ça m'étonne que je n'en ai pas parlé.
Et c'est écrit de par qui?
Ah, je ne sais pas.
Il va falloir googler.
Googler. Ouais.
Magnifique. Eh bien, on arrive en fin d'émission.
Est-ce qu'on ne se dirait pas, les filles, que pour 2024, on souhaite de contempler plus peut-être les choses, moi, peut-être mon souhait de porter un peu plus d'attention aux choses du quotidien, de ce que je fais, des choses simples qui sont déjà là, plutôt que toujours avoir plus et chercher plus, juste même ce moment-là, entre nous, je suis trop contente. Mmh. Tu vois, est-ce que c'est pas ça, mais... Enfin, voilà.
Bah, ça fait une très bonne conclusion.
Oui, on se souhaite plein de belles émissions encore.
Ouais, c'est pas fini. Et oh, oui. D'ailleurs, est-ce qu'on dirait pas que ça a changé,
hein? Oui.
Oui.
Vas-y, Marion Messant.
Eh bien... Hello tout le monde. Non, eh bien, en fait, notre émission qui est de base tous les premiers mardis du mois de 21h à 22h sera tous les premiers mardis du mois de 20h à 21h. Horaire peut-être un peu plus adéquat.
On vous espère nombreux et nombreuses pour nous écouter mardi, le prochain mardi du mois, donc ça sera en février.
Ouais.
On aura certainement un invité...
Who knows.
Pour cette émission-là. Ouais. Et donc, on vous propose de nous écouter, effectivement, de 20h à 21h
ouais.
En février.
Et là, bah, du coup, on va écouter une musique qui s'appelle Fumée, de Sheldon. On m'a fait découvrir cette musique il n'y a pas très longtemps. Et bien voilà, bonne écoute. Et les filles, bah, on se dit à dans un mois.
À bientôt.
À bientôt.
Écoute et belle soirée à vous.
Je mets tous mes proches dans la fusée. Depuis petit, je veux m'en aller loin d'ici. Je disparais dans la fumée. À moi, je suis plus efficace quand je suis moins visible. C'est un bordel, j'ai la flemme de tout expliquer. C'est un bordel, je veux m'en aller loin d'ici. C'est un bordel, j'ai la flemme de tout expliquer. Je fais un gros terre, j'ai la flemme de tout effriter. Je veux briller, mais pour briller, faut un billet. Je veux des billets, je veux les plier pour m'en aller loin d'ici. J'ai déjà vu la fin du niveau. Pour y aller, faut un gilet et un fusil bien aligné. Je me sens solo dans les ruelles de ma ville. Puis qu'il est plus là, j'ai un drôle de truc dans le pire. J'ai déjà vu la fin du niveau. Pour y aller, faut un gilet et un fusil bien aligné. Je mets tous mes proches dans la fusée. Depuis petit, je veux m'en aller loin d'ici. Je disparais dans la fumée. À moi, je suis plus efficace quand je suis moins visible. C'est un bordel, j'ai la flemme de tout expliquer. C'est un bordel, je veux m'en aller loin d'ici. C'est un bordel, j'ai la flemme de tout expliquer. J'fais un gros terre, j'ai la flemme de tout effriter. Tu veux wesh, tu veux t'en aller d'ici. Alors fais tes bagages et décale dans l'après-midi. Trop de choses me retiennent, mais j'veux explorer mes limites. Alors j'prends mes angoisses, les regroupe et j'les élimine. J'ai rien dans l'américain, depuis petit j'suis dans mon truc. J'connais les rues de ma ville, la ZB caché dans mon fut. Je suis juste un gosse de Paname qui a grandi trop vite sous une cloche de napalm. Je me sentirais mieux si j'étais loin de ce monde étrange. À moi je sais pas me battre, mais je sais lire le fond des gens. Nous on a rien à voir avec le commun des mortels. Je suis pas venu sur la terre pour faire le clown le long des champs. Je mets tous mes proches dans le vaisseau. Là où je suis, y'a plus de réseau, mais c'est bien mieux dans le métro. Dans la fumée, depuis petit, je veux m'en aller.